Voilà, on va prier pour ce temps où on va ouvrir la parole de Dieu. Notre Dieu, merci, parce que tu ne nous as pas laissés orphelins, tu nous as donné ton esprit. Tu l'as envoyé sur l'Église, et Seigneur, cet esprit nous accompagne et nous conduit. Et nous voulons ce matin que nous soyons conduits dans ta parole, Seigneur, cette parole que tu as inspirée. Et tu as dit toi-même que le ciel et la terre passeront, mais pas un trait de lettre ne passera de ta parole. Alors nous te remercions pour cette parole et te prions de l'éclairer pour nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais proposer quatre lectures. La première se trouve dans Éphésiens. Éphésiens 4, 14. Ce sera plus facile sur vos iPhones d'avoir la référence exacte. Éphésiens 4, 14. Je lis juste le contexte pour le placer dans les versets qui précèdent. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Le verset 14 qui dit « Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants, et entraînés à tout vent de doctrine, joués par les hommes avec leur fourberie et leurs manœuvres séductrices, mais en disant la vérité avec amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. » Le deuxième passage, c'est dans 2 Timothée. 2 Timothée 4, 3. Timothée, 2 Timothée 4, 3. « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Mais au gré de leur propre désir, avec la démangeaison d'écouter, ils se donneront maître sur maître, ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en tout, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste et remplis bien ton service. » Alors il y a Tite, c'est juste après, Tite 1, 9, qui nous dit ceci. Alors concernant l'évêque, concernant le superviseur de l'Église, qu'il soit irréprochable, etc. Et au verset 9, attaché à la parole authentique telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de convaincre les contradicteurs. Et un dernier passage dans Matthieu, chapitre 16, Matthieu chapitre 16, verset 3. À partir du verset 2. Jésus répondit, c'est par rapport à la question de voir un signe, de faire un signe venant du ciel. Le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Vous regardez aussi le soir le ciel, surtout en été, voilà. Bah, vous voyez, ça marche à tous les coups. C'est mieux que le forecast là. C'est sûr que si le soir c'est rouge, le matin il fait beau. Donc vous savez ça, vous voyez, c'est vieux comme le monde. Aujourd'hui, il fera beau car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage, car le ciel est d'un rouge sombre. Donc le matin, c'est pareil. Vous savez qu'il y aura de l'orage si le ciel est rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Une génération mauvaise et adultère cherche un signe et il lui sera donné d'autres signes. Ne lui sera donné d'autres signes que celui de Jonas. Puis il les laissa et s'en alla. Et on parle beaucoup de Jésus qui est très empoulé. Non, il n'est pas empoulé. Il dit les choses avec amour. Et une fois qu'il a dit, il s'en alla. Est-ce qu'aujourd'hui, en tant que chrétiens, je parle à des chrétiens, est-ce que nous reconnaissons les signes de notre temps? Ça, c'est important. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est le problème du déni. Vous connaissez le problème du déni? Les psychologues disent bien, quand on est dans le déni, en fait, on est aveugle. On peut faire quelque chose, et quand on est dans le déni, et on dit non, c'est pas vrai, eh bien, en fait, on ne peut pas changer. Voilà. Donc, le déni empêche le changement. Est-ce qu'il y en a qui veulent ne pas changer ici? Donc, vous voulez tous changer? Je peux poser la question dans l'autre sens. Est-ce que vous voulez changer? Levez la main. Bon. Non, c'est pour dire, voilà, je pense que tous, nous avons envie de changer. Mais si nous sommes dans le déni, nous ne pouvons pas changer. Et c'est ça le problème. Or, nous sommes composés d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Vous êtes d'accord avec ça? Tous ne sont pas d'accord. Il y en a qui disent, voilà, il n'y a qu'une âme, esprit et un corps. Il n'y a que deux parties. Non. Je pense que la Bible est claire. Un corps, une âme et un esprit. Or, tous ces trois-là se forment ou se déforment, si vous voulez. Le corps, prenez un bébé, hein, il commence tout petit, un embryon. Son corps, il grandit. L'âme, elle grandit. Puisque déjà, là, dans le ventre de la maman, l'enfant, il entend, l'enfant, il participe, etc. Bon, et puis quand il sort, bah, on en prend soin, on l'éduque et tout ça, voilà. Et jusqu'à l'âge adulte, puisqu'on parle bien de l'âge adulte, où il commence à être autonome. Mais tout ça, c'est un changement. Ça change tout le temps. Et l'esprit aussi. Notre esprit, au départ, il n'est pas activé, si vous voulez, il n'est pas vivant. Et c'est pourquoi nous, on ne baptise pas les enfants, parce qu'on ne pense pas que ce soit magique, au sens où on baptise un enfant, hop, son esprit vient à la vie. On pense que l'esprit vient à la vie à partir du moment où on lui donne, donc c'est le rôle des parents, on lui donne tout petit, c'est pas le rôle de l'Église, hein, l'Église accompagne les parents. C'est pour ça que quand il y a une présentation, à chaque fois je demande aux parents s'ils vont élever l'enfant dans les voies droites et ensuite après l'Église s'ils accompagnent. Vous voyez, c'est dans ce sens-là. Parce que c'est à la maison que ça se passe. Si les enfants n'ont pas une vie spirituelle qui est activée, leur esprit ne peut pas s'ouvrir à Dieu. Au contraire, il peut se fermer à Dieu. Quand vous êtes dans une famille, voilà, datée, machin, etc., bon, vous fermez la personne à l'esprit, à l'ouverture spirituelle. Donc, dans tous les trois domaines, on change. Dans tous les trois domaines, on évolue. Et on évolue vers quoi? Il faut savoir quelle est l'évolution. Eh ben, c'est notre vision. La vision de l'Église, c'est d'évoluer vers la liberté, parce que nous ne sommes pas libres. David, d'ailleurs, le dit dans un psaume, il dit « Je suis né dans le péché hein ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes héritiers d'Adam. Or, Adam, il a péché. Et donc, nous sommes pécheurs. Et en étant pécheurs, nous sommes dans le corps imparfait, des corps imparfaits. Il y en a qui ont des corps parfaits ici? Non. C'est Jésus. Quand il est ascensionné, il avait un corps parfait. Nous aurons ce corps. Mais pas maintenant. Est-ce qu'il y en a qui ont une âme parfaite? Vous êtes moralement absolument impeccable, vous ne péchez jamais, vous faites tout bien, etc. Donc moralement, on est voilà. on n'est pas parfait. Et spirituellement, c'est pareil. Est-ce qu'on connaît le Seigneur tel qu'il est parfaitement? Non, on apprend à le connaître. Donc voilà, c'est une lapalissade, c'est on est tous en chemin. On est tous en transformation, on est tous dans les trois domaines, corps, âme et esprit. Donc, on chemine vers quelque chose. Et ce chemin, eh bien, nous amène à... En fait, le message de l'Évangile, le message de la bonne nouvelle, c'est qu'il y a deux temps. Il y a l'accomplissement et la consommation. L'accomplissement, c'est ce qui a été promis par les prophètes. Un Messie allait venir pour nous sauver, nous libérer, un libérateur. Donc ça, c'est l'accomplissement. L'accomplissement a été fait dans l'histoire de l'humanité il y a 2000 ans, Jésus qui est mort à la croix, qui est ressuscité et qui maintenant siège à la droite de Dieu. Mais il doit revenir. Il y en a qui attendent son retour parce que son retour amène à la consommation. du royaume. Il y a l'accomplissement de la consommation. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas encore à la consommation. Donc nous sommes dans une tension. Une tension entre l'imperfection et la perfection qui nous attend. Et cette tension, tout ce qui est tension, crise, etc., ça pose problème. C'est pas facile à gérer. Donc, il y en a qui veulent pousser un peu à la perfection. Bon, mais bon, ils seront forcément dans une illusion. Il n'y a pas de perfection aujourd'hui. Personne n'est parfait. Et donc, nous tendons. Et donc, c'est d'acquérir la liberté, plus de liberté. Et c'est pour ça qu'on a adopté le ministère de la Maison d'Élie, qui va au-delà simplement d'une délivrance des esprits, qui est une réalité, mais aussi vers une libération, une liberté dans tous les traumas que nous avons pu avoir, dans toutes les imperfections du passé. Et sont plus ou moins fortes suivant ce qu'on a vécu, suivant nos parents, suivant nos environnements, suivant les maîtres d'école qui n'étaient pas parfaits et qui ont pu nous amener des difficultés dans nos vies, etc., etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire ? Sans parler de ceux qui sont violés, etc. Voilà. C'est un tas de traumas, voilà, et nous ne sommes pas libres. De toutes ces expériences de vie peuvent nous faire même régresser dans certains domaines. Alors bon, on peut passer dessus, on peut prendre, moi je suis fort, etc. Mais ça n'empêche pas que ce n'est pas réglé. Si ce n'est pas réglé, il faut le régler. Or, comment est-ce qu'on règle tout cela ? Quel est le secret ? Il n'y en a qu'un. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas qu'un. Pour nous, en tant que chrétiens. Et comment ? Sylviane ? À la croix. À la croix. C'est à l'accomplissement du royaume, de ce que Jésus est venu amener le royaume dans l'humanité. Il a dit le royaume est au milieu de vous, et que c'est la croix. Et la croix suppose quoi, Laurence ? Je sais que tu connais les réponses. La mort à soi-même, c'est-à-dire la repentance et la foi. Avant que Jésus vienne, il y a Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il a prêché ? La repentance. Jésus, quand il a commencé son ministère, il a prêché quoi ? La repentance. Nous sommes censés prêcher quoi ? Voilà, je ne vous le fais pas dire. Nous ne sommes pas plus grands que notre maître, nous sommes disciples du maître. Et tant que nous ne sommes pas à la consommation du royaume, c'est la repentance. La consommation du royaume, qu'est-ce qui va arriver ? Historiquement, comme il y a 2000 ans, c'était l'histoire, c'est une histoire. Hein. Ce n'est pas une légende, ce n'est pas un mythe, ce n'est pas quelque chose qu'on ne sait pas d'où ça vient. Non, c'est une. On va vivre cela, historiquement. Okay. Donc historiquement, la consommation va être quoi, concrètement ? C'est le retour de Jésus. Hello ? Le retour de Jésus. Le retour de Jésus qui existe réellement. Oui. Ce ne sera pas un mythe qui va d'un seul coup. Telle époque, Jésus est de retour. Non, on tous le verront. Hello ? Comme on l'a vu, comme il y en a qui l'ont vu à 2000 ans, nous le verrons. Sauf que nous ne le verrons pas comme un bébé dans une crèche, nous le verrons comme le roi de gloire qui vient et qui vient établir son royaume. Vous me suivez ? Ça, c'est l'évangile. L'évangile qui, depuis 2000 ans, est prêché et supposé être la saine doctrine. Tout à l'heure, on parlait de saine doctrine. Alors, je reviens au signe des temps. Il faut qu'on puisse réaliser dans quel temps nous sommes, parce que ces temps-là, dans lesquels nous sommes, qui sont les dernières, sauf que les dernières, ça a commencé il y a 2000 ans, vous voyez, dernier temps. Donc, on est quoi ? Les apôtres, à l'époque, pensaient déjà que c'était la fin des temps. Par exemple, saint Augustin, qui est le père de l'Église par excellence, qui vivait au IIIe siècle, il a écrit un volume. Alors, je crois qu'il est épais comme ça. Hein, c'est, vous voyez, je ne sais pas si vous êtes capable d'écrire des volumes comme ça, de théologie. il en a écrit à peu près ça tous les ans. Toute sa vie était un résumé de théologie. Et il a été choqué, plus que choqué, il a été atterré, comme dans son temps, du sac de Rome. Vous savez que Rome, c'était l'Empire, c'est-à-dire que c'était le monde de l'époque qui était gouverné par Rome, par les Romains. toute la Méditerranée, parce qu'avant on n'avait pas découvert, Christophe Colomb n'était pas né encore, hein. Donc il n'avait pas découvert l'Amérique. Donc à l'époque, l'Empire, c'était celui qui gouvernait sur la terre entière, sur le monde de l'époque, qui était l'Empire romain. Et dans cet empire, dans lequel se trouvait aussi Jérusalem, hein, Israël, parce qu'elle couvrait tout, ils ont annexé Jérusalem, ils ont donné une liberté provisoire à Israël, mais ils devaient répondre à Rome. Hein. Alors, je ne sais plus ce que je voulais dire. À l'époque, oui, quand le sac de Rome, c'est-à-dire que, comment il s'appelait le barbare là, qui est venu avec les éléphants, pardon ? Non, à l'époque, Gengis Khan, c'est tout récent. Ah non, c'est pas récent, mais... comment il s'appelait Attila, oui. J'avais Alanin, je dis, c'est pas Alanin, c'est Attila. J'avais Attila. Attila, quand il est venu, c'était un barbare, un sauvage incroyable, quoi. C'est tout juste s'ils se mangeaient pas les uns les autres. Enfin, c'était des barbares par excellence. Et qu'un barbare, comme ça, puisse détruire l'Empire romain, à Rome, ça a atterré les chrétiens. Vous voyez ? Atterré les chrétiens. C'est pas possible. Dieu, il aurait dû protéger Rome. Les chrétiens. Vous voyez ? Je ne parle pas des deux premiers siècles où les empereurs mettaient les chrétiens en prison, hein, ou dans le cajolis, on sait. Avec Constantin, ils ont eu la liberté. Et tout l'Empire a été décrété chrétien. Attention. Hein. Donc c'est l'Empire chrétien qui a été renversé par Attila. Et il faut bien voir que dans un temps, quand on vit dans un temps, il faut se remettre dans le temps pour comprendre les choses. Bon. Et saint Augustin, qui a écrit ces volumes-là, il n'en revenait pas. Il disait, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi Dieu permet qu'un empire chrétien soit détrôné par des barbares comme Attila et toutes ses troupes qui ont vidé, détruit Rome, etc. Ouais. Se pose des questions quand on est dans une époque comme ça. Et ça conduit, bon, je ne vais pas développer la thèse d'Augustin, ce n'est pas l'objet de ce matin. Mais aujourd'hui, c'est pareil, il faut qu'on comprenne nos temps, le signe des temps. Le signe des temps, c'est ce que nous vivons aujourd'hui et ce vers quoi nous allons. C'est le fameux ciel rouge le soir, on sait que le lendemain, il va faire beau. Bon. Est-ce qu'aujourd'hui, on sait comment demain sera fait ? Oui, on peut le savoir. Si on a du discernement. Si on n'a pas de discernement, comme Jésus le dit, il dit, vous savez discerner le temps et vous ne savez pas discerner les signes qui vous concernent. Voilà. Un chrétien doit savoir ce qui se passe. Sinon, il n'est pas inspiré. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Donc, soyons des chrétiens qui soyons inspirés par Dieu pour savoir ce qui se passe. Je ne dis pas pour donner des dates, parce qu'il y a des gens qui disent des dates. Ah oui, telle année, Jésus va revenir. C'est pas ça. Le signe, c'est quelque chose qui nous permet de savoir dans quel sens nous allons, comme à l'époque d'Augustin, on est consterné, ensuite après on se reprend, on dit, waouh, qu'est-ce que ça veut dire ? Quel est ce signe ? Alors j'essaye de vous mettre sur la piste. Alors je vous donnais sept signes, enfin sept éléments, qui devrait vous permettre de comprendre dans quel temps nous sommes. Mais vous les avez, ces éléments-là, ça, je m'en rappelle. Mais en même temps, ça devrait vous permettre de comprendre mieux ce qui est véhiculé dans l'enseignement de la doctrine, qui peut être saine ou malsaine. Et comme nous sommes corps, âme et esprit, nous sommes influencés par le monde. Un chrétien n'est pas un chrétien... Voilà, qui est juste un esprit. Hein, Laurent, ce n'est pas juste un pur esprit. Voilà. Donc, nous sommes influencés par les pensées, par les médias, par les chrétiens, qui sont eux aussi charnels et spirituels, etc. Voilà. Donc, nous sommes influencés. Alors, je vous donne ces sept éléments, ce n'est pas forcément exhaustif. Hein, mais un, l'individualisme. Je pense que tout le monde reconnaît qu'aujourd'hui, on est dans une société individualiste. Et le corollaire de l'individualisme, c'est le rejet des institutions, le rejet des communautés, de ce qui est commun. C'est pas très vieux, c'est en 68 hein, que sortait les pavés, Paris était dépavé, pour les envoyer sur la police, qui représentait l'ordre, si vous voulez, l'ordre établi à l'époque, hein, parce que c'est eux qui étaient commandités par ceux qui étaient représentants des institutions pour arrêter la violence. Mais même De Gaulle, qui a libéré la France des Allemands, il a dit c'est la chienlit, et il comprenait plus rien, il a pris l'hélicoptère, il est allé à Bonn, parce qu'il pensait que c'était sa fin, quoi. Bon. Donc ça devait être terrible. Hein. Mettez-vous à la place d'un général De Gaulle qui prend la fuite devant... Donc ça veut dire que c'est une ampleur. Ceux qui n'ont pas vécu 68 peuvent imaginer quel était le déclenchement contre les institutions, contre l'autorité, contre tout ce qui est communautaire, etc. Non, je ne veux plus. Et dans les bouches de métro, moi j'étais à l'époque, Isabelle aussi je crois, c'était marqué, il est interdit d'interdire. Interdit d'interdire. C'est-à-dire que si quelqu'un, et surtout une institution, vous interdit quelque chose, c'est interdit, c'est illégitime. Donc nous sommes dans cette société. Aujourd'hui ça a été débridé pour être dans l'individualisme. Rejet des institutions, rejet des personnes morales, rejet des associations, des corporations, et l'Église en fait partie. Pourquoi aujourd'hui les églises, ce sont des églises Internet, voilà, parce que chacun reste chez soi, puis hop, il n'a pas de compte à rendre, il n'a plus rien. L'institution, on ne connaît plus, vous voyez. Allô ? Vous reconnaissez un peu une tendance, hein ? Moi, je consulte tout le temps Internet, c'est un outil. Mais si Internet devient le remplacement de l'Église, que Jésus a institué comme une communauté, ça pose problème. On est d'accord ? Bon, c'est juste une piste. Deuxième piste, le relativisme. Quoi le relativisme ? Ben, tout est relatif. Tout est relatif. Rejet d'une vérité absolue. Il n'y a pas de vérité absolue. Donc ça veut dire quoi ? Rejet de la parole de Dieu. Parce qu'elle est absolue. Jésus a dit, si les terres passeront, ma parole ne passera point. Donc c'est dire c'est absolu. Ben, c'est rejet total de ça. Rejet total. Et on va dans ce sens-là. Le nouvel âge dont on parle de temps en temps, c'est ça. C'est, non, c'est interdit d'établir une religion, une vérité absolue. Ça n'existe pas. Ça va à l'encontre totale de la parole. Vous êtes d'accord ? Non ? Je parle à des gens qui réalisent que je ne vais pas le développer. Hein. Mais vous voyez, c'est une réalité de notre société. Donc il faut faire avec dans la compréhension de ce que nous aussi nous sommes en train de suivre. Donc, chacun fabrique sa vérité. Vous allez sur Internet, vous allez voir sur le bouddhisme. Ah, c'est super le bouddhisme. C'est pas mal ça ce qu'ils disent. Attends, on m'a toujours dit le bouddhisme. Non, mais attends, les chrétiens, c'est n'importe quoi. Voilà. Le bouddhisme, c'est bien. Bon, là, je suis pas d'accord, on parle pas de Jésus, mais bon, c'est pas grave, le reste, c'est bon. Donc, vous prenez un peu de bouddhisme, vous prenez un peu de taoïsme, un peu d'hindouisme, un peu de machin, etc. Et vous faites votre tambouille, et vous avez une doctrine. Mais est-ce que c'est la doctrine ? La saine doctrine. Ben non, elle est polluée. Elle est corrompue. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Donc, vous voyez, un outil super comme Internet va vous permettre de rentrer dans le relativisme ambiant. Troisièmement, le gnosticisme. C'est quoi le gnosticisme ? Un terme grec qui dit une connaissance cachée. Une connaissance cachée. Ben aujourd'hui, on a des connaissances cachées qu'on vous révèle. Avant, c'était dans les sociétés secrètes. Vous vouliez connaître une connaissance cachée, il fallait prendre une carte. Que ce soit chez les francs-maçons, que ce soit n'importe où ailleurs, il faut prendre une carte et après, on vous autorisait d'avoir cette connaissance spéciale qui était réservée aux personnes membres. Aujourd'hui, non. Tout est disponible. Vous pouvez aller sur Internet, vous pouvez savoir la connaissance qui est développée par tel groupe, tel groupe, tel groupe, etc. Vous voyez, ça change complètement. Or, les connaissances cachées, c'est tout bête. C'est ce que Satan a fait dans le jardin d'Éden. Il a dit à l'homme, attends, Dieu a dit, oui, mais tu comprends pas bien. Ce qu'il a dit, en fait, c'est ça qu'il voulait dire. C'est-à-dire, il dit pas que c'est faux, il dit simplement, tu as quelque chose qui te manque. Donc, je vais te l'expliquer à ma façon. Elle est cachée. Et on te l'a cachée, d'ailleurs. C'est fait exprès. Parce que c'est les institutions là qui voulaient régner, qui voulaient gouverner, qui voulaient diriger le monde. Vous voyez, donc c'est présenté d'une manière où vous vous accrochez à l'hameçon. Vous dites, ah, j'aimerais bien savoir ce qui est caché. Alors c'est tellement vrai qu'en 1940, 47, je crois, ou enfin un an près, c'est 47, 48, 47, on a découvert dans une grotte en Égypte, ça s'appelle Nag Hammadi, on a découvert des papyrus qui dataient d'il y a 2000 ans, qui n'avaient jamais été découverts, qui s'appellent les écrits gnostiques. Alors les écrits gnostiques, c'est l'évangile de Marie, l'évangile de Judas, l'évangile de tout un tas d'évangiles, je crois qu'il y en a, il y en a 35 hein, évangiles. Donc vous voyez, les quatre évangiles qu'on a de Matthieu, etc., il y en a d'autres, sauf qu'ils ont été cachés. Décachés. Et en 47, je crois, eh bien, c'est revenu à la surface. Aujourd'hui, vous pouvez... Moi je, un jour, j'ai dit, je vais quand même m'intéresser à l'évangile de Thomas, je crois, Thomas, ouais. Bah, je croyais vomir. Quand je lisais ça, j'ai dû arrêter. Hein. Je pensais vomir, à ce point-là. C'est physique. Hein. Vous sentez que c'est tordu, c'est inimaginable. Hein. Quand vous aimez la vérité, alors là, faites l'expérience. N'importe quel évangile, vous le prenez. L'évangile de Marie-Madeleine, alors là, voilà. Vous allez à Paris, vous avez l'évangile de Marie-Madeleine. Mitterrand était fan de ça. Voilà, vous avez le gnosticisme. Or, le gnosticisme, on cherche les connaissances cachées, c'était la principale ennemie des apôtres, premier siècle. Vous voyez, on revient à ça. Alors, premier siècle, 21e siècle, là, il y a quelque chose qui résonne. Hein. Ah ben, les apôtres... Vous voyez Jean, tous les apôtres, Pierre, etc. Tout l'évangile, enfin toutes les épîtres, pardon, les épîtres, eh bien sont là pour dénoncer le gnosticisme. 2 Timothée 2,15, la femme ne doit pas prêcher dans l'église, c'est du gnosticisme. Même les traducteurs, ils n'ont pas compris. Quand vous ne comprenez pas le gnosticisme, vous traduisez la femme ne doit pas prêcher dans l'église, ça n'a rien à voir. Parce que quand vous rentrez dans le gnosticisme, les gnostiques disent maintenant, ce n'est pas Adam qui a été créé le premier, c'est Ève. Ah bon ? Parce que, bah oui, forcément. Adam, il était endormi. Et Ève, elle est sortie de lui, elle était vivante. Et après, c'est lui qui. Vous voyez ? Donc spirituellement, c'est Ève d'abord. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit dans Timothée, attendez, arrêtez ces femmes-là qui prêchent ça, parce que c'est Adam qui crée le premier. C'est une vérité dans la saine doctrine. Mais la doctrine corrompue, c'est non, c'est Ève. Ah bon ? Ben oui, parce qu'il y a un message derrière. Et après, il développe le message. Donc, gnosticisme qui veut favoriser l'expérience. Vous partez de l'expérience. Ah oui, je ressens. Donc je ressens, c'est que c'est vrai. Vous voyez ? On retourne au relativisme et au individualisme qui permet le gnosticisme d'apparaître. Troisièmement, le renversement des valeurs. On renverse les valeurs. On dit bien ce qui est mal, et on dit mal ce qui est bien. Ce qui fait que vous êtes dans la confusion et vous pouvez passer les messages que vous voulez. Non ? Ça vous dit quelque chose ? Je ne vais pas plus loin, mais chaque élément pourrait donner lieu à un message. Cinquièmement, la recherche de l'unité. Pourquoi la recherche de l'unité ? Alors, ça peut être l'œcuménisme, ça peut être voilà, l'unité, etc. Mais simplement parce que c'est un principe panthéiste. C'est-à-dire l'adoration de la nature. On sait que la nature, voilà, elle se tient. Maintenant, c'est la systémique. Les nouvelles physiques, ils ont vu qu'ils ont fait tout un tas de biologie, physique, chimie, séparés. Mais en fait, tout est un. Tout est un. Et donc, le panthéisme, c'est un. C'est le dieu de l'un. Donc, l'un méritera. C'est le monisme. Monisme, bouddhisme et monisme, hindouisme et moniste, voilà, c'est le monisme, c'est d'aller vers l'un. Donc ça, c'est un élément important. Sixièmement, le suggestif, on suggère. On suggère. Vous voyez ça va avec Satan dans Genèse, il n'a pas dit non, Dieu n'a pas dit. Il a dit non, il voulait dire autre chose. Vous voyez il suggère autre chose. Ah, il ne vous force pas à prendre la pomme. Enfin, pas la pomme, c'est le fruit. Et il vous suggère de le prendre, mais c'est vous qui êtes responsable. Vous voyez j'ai rien fait. Hop, voyez la sélection de l'ennemi. Voilà. Et ça, on est dans ce temps-là aussi, où la suggestion pour aller vers le péché, après, lui, il se retire, il n'a rien fait. Et dernièrement, qui est évident, c'est l'orgueil qui augmente. Vous ne pouvez plus rien savoir. Moi, je sais. Moi, je sais. Et pourquoi j'aime bien laisser cette frise-là ? Parce que elle est bien sur le plan, je pense qu'on ferait mieux sur le plan du design. Hein. C'est pas que je veux critiquer les gouvernements, voilà, mais pourquoi je l'aime? Parce que ça nous rappelle en permanence de ne pas tomber dans l'orgueil. Ah, je découvre, non. On est toute une nuée de témoins à chaque époque. Il y a des gens qui ont découvert des choses, qui nous ont transmis. Et quand c'est sain, on peut s'appuyer sur cette transmission. Allô ? J'ai votre attention là. Ouais. Donc j'aime bien ça, parce que ça nous ramène à une humilité. De dire non, il y en a d'autres qui sont dans le passé, mais qui ont suivi sur la planète, etc., qui peuvent nous apprendre des choses. Amen. Donc attention, l'orgueil, de dire ah, maintenant on sait. Ah, on a découvert ça. Ah, j'ai découvert ça. Alors là, c'est l'apothéose. Dans Matthieu 13, qu'on ne lira pas, mais je suggère, j'impose pas, je ne suis pas hiérarchique, mais je suggère que dans les groupes de maison, vous étudiez Matthieu 13, qui sont les paraboles de Jésus. Pourquoi Jésus parlait en paraboles? Il le dit d'ailleurs, dans Matthieu 13, les disciples lui disent, mais pourquoi tu parles en paraboles, quoi? Je veux dire, tu dis des choses sans les dire, tout en les disant et avec des images. Dis, mais parce que vous avez la chance, enfin, je paraphrase ce que Jésus dit, vous avez la chance d'être avec moi, donc je peux vous l'expliquer. Mais la foule qui est là, s'il y a 5000 personnes, chacun peut comprendre à sa manière, je peux pas, parce que, vous voyez, le problème de la communication, c'est que nous sommes tous d'un arrière-plan différent. Et quand on dit un mot, eh bien ce mot veut renvoyer d'autres connotations, d'autres idées. Et c'est ça le problème de la communication. C'est que moi, je vais vous dire une phrase, et après, vous pouvez m'attaquer en disant « il a dit ça ». Oui, parce que peut-être les mots que vous relevez, pour vous, dans votre signification, ils renvoient à autre chose que ce que je dis. Voyez. Donc, communiquer, ça veut dire et demander à l'autre ce qu'il a compris. C'est pour ça que moi je passe un temps fou, hein, si vous voulez le savoir, sur Internet par exemple, parce que ça remplace le dictionnaire, pour à chaque fois voir les mots que j'utilise. Les mots, pour savoir si les mots renvoient à une réalité qui est biblique. Et ou qui n'est pas biblique, je l'utilise pas, voyez. Mais comme vous ne faites pas ce travail-là, forcément les mots, ils vont avoir le sens que vous avez du mot. Donc j'essaye, moi, mais bon, on n'est pas dans une université. Dans une université, avant de commencer une conférence, vous avez à peu près 10 minutes d'explication du mot qui va être employé. Ça, c'est les universitaires, c'est comme ça qu'ils travaillent. Avant de commencer. Parce que ils s'adressent à des gens qui veulent comprendre ce qui est en train d'être dit. On devrait le faire, l'Église. Mais bon, je pense que dans une Église, petit à petit, les mots devraient avoir un sens commun entre nous. Et c'est pour ça qu'on fait aussi des formations, on fait aussi voilà, de l'enseignement, etc. Bon, de manière à ce que petit à petit, on ait un vocabulaire qui renvoie à quelque chose. Je prends juste un exemple. Si je vous dis, chez moi, il y a un arbre qui vient de tomber. Quelle est dans votre imaginaire? Je suis sûr que chacun, si je prends chacun d'entre vous, vous me direz un arbre différent. Il y en a un qui sera un sapin, l'autre qui sera un peuplier, l'autre qui sera... Voilà. Mais en fait, c'était un saule. Bah, vous n'auriez pas pu le savoir si je ne vous dis pas le saule. Hein, vous voyez, communication. Donc, voilà, il y a un saule qui est tombé. Bah, pas évident d'imaginer que ce soit un saule si je dis un arbre qui est tombé. Voyez. Communication, d'être précis sur le mot que j'utilise, de manière à ce que votre image dans la tête, puisque vous n'êtes pas venu chez moi, on puisse bien communiquer. Parce qu'en plus, le saule, bon, il a une particularité, pourquoi il est tombé, etc. C'est pas pareil qu'un sapin, etc. Voyez, ça explique beaucoup de choses. Allô ? Je suis en train de communiquer ? Voilà. Donc la communication, c'est ça, c'est de s'assurer à ce qu'on soit bien entendu sur ce qu'on a dit. Et il y a beaucoup de malentendus. Et c'est pour ça que dans l'Église, il faut faire un travail d'humilité pour dire à la personne, j'ai peut-être mal entendu, explique-moi ça, avant de commencer à dire, ah, il a dit ça. Comment ça, il a dit ça? Oui, assure-toi d'abord que c'est bien ça qu'il veut dire. Et après, tu peux dire. moment donné, il faut dire, oui, il a dit ça. Okay. Mais d'abord, un travail de communication. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que ce qui m'a choqué dimanche dernier, c'est Marc Brisebois qui a parlé de la parabole de l'atmosphère. Alors, ça m'a choqué pour plusieurs raisons. Parce que la parabole de l'atmosphère, j'ai regardé sur Internet ce qu'il aurait dû prêcher après, mais il n'a pas fait parce qu'il a testé, il a vu que Michel était sur les dents comme moi, et qu'elle n'allait pas... Enfin, il risquait d'y avoir un clash s'il allait dire la deuxième partie de sa parabole de l'atmosphère. Et moi, j'ai regardé ce qui, normalement, se dit sur cette parabole de l'atmosphère, qui, en soi... Moi, j'ai dit, il prêche la grâce. Bon, il vaut mieux utiliser la grâce que l'atmosphère. Bon, parce que la grâce, c'est le principe même de ce qu'ont découvert les réformateurs, hein, où ils ont dit, bah, on n'est pas sauvé par les hommes, on est sauvé par la grâce. Alors, la grâce, ça vient de qui? Ça vient de Dieu seul. Okay. L'atmosphère, ça vient de qui? Pas forcément. Vous voyez la signe du temps. Voilà, quelqu'un dans la salle dit « ça vient de Dieu ». Ah non, justement. Il y a des connaissances secrètes qui montrent que l'atmosphère, ça vient pas de Dieu. Pardon? Ben voilà. Ouais, ouais. Non, mais... La prédication reposait sur la parabole de l'atmosphère. Ce qu'il a prêché, il s'est arrêté à temps, quoi. Bon. Mais s'il avait donné la deuxième partie, je vais vous donner un exemple de comment est utilisée cette parabole-là. Et je pense que vos cheveux vont se dresser sur la tête. Mais voilà. Mais bon, il a vu qu'il ne pouvait pas la donner, donc on a été préservés. Mais ceci étant, si vous dites « Ah, c'est super, parabole de l'atmosphère », c'est un peu comme ma mère a été catholique, très croyante, elle m'a passé énormément de bonnes valeurs et tout ça, mais elle est restée catholique. Bon. Puis quand on discutait avec elle, Michel aussi, bon, c'était très très ouvert, hein, on discutait facilement, et on disait quelque chose qui était contre l'enseignement catholique, d'une doctrine catholique, et elle nous disait, ouais mais ils ont oublié de l'écrire ça. Non mais, elle était simple, hein. Ils ont simplement oublié de l'écrire. Bon. Ouais, il suffisait voilà, dans l'évangile d'écrire ça, puis c'était fini. Quoi. Ouais. Non, mais on n'a pas fait de discussion plus que ça. Hein. Bon, il suffisait d'oublier de l'écrire. Bon. Ouais. Ouais, c'est... Ok, tour de passe-passe, et c'est bon. Donc, voilà. On ne s'est jamais fâché là-dessus. Hein. Mais les gens qui utilisent la parabole de l'atmosphère, c'est un peu ça. Ils disent, ah oui, il y a quelque chose qu'ils ont oublié d'écrire. Mais écoutez, je suis désolé, dans l'évangile, il n'y a pas une parabole sur le royaume. Il y en a combien? Il y en a 6, voire même 7. Alors étudiez ces paraboles dans vos groupes de maison pour approfondir un peu votre connaissance de la vérité, la saine doctrine. Si Jésus n'a pas prêché la parabole de l'atmosphère, est-ce que c'est parce qu'il a oublié? Il a peut-être oublié d'en parler? On peut l'imaginer. Et donc on ramène Dieu, on ramène Jésus à notre niveau en disant, bah oui, mais bah attends, ça veut dire qu'il était faillible, qu'il était comme un homme, qu'il a oublié la parabole de l'atmosphère. Non, restons sérieux. Que l'atmosphère change quand on est chrétien, je suis d'accord. Vous voyez ? Il y a une différence entre dire l'atmosphère change quand je viens dans un lieu. Allô? Ok, ça d'accord. Donc voilà, on était sur une limite entre ça et comment on utilise après la parabole. Vous voyez, un jour, il y a un collègue de Florence qui dit à sa copine, bah, tu vois, elle a changé l'atmosphère, dont voilà, complètement changé l'atmosphère du bureau. Ok, un chrétien doit changer l'atmosphère. Ok, mais je vous signale qu'une parabole, Jésus l'a dit, c'est à titre d'enseignement. C'est-à-dire qu'il enseignait les foules avec une parabole. Et il expliquait la parabole à ses disciples. L'atmosphère, parabole de l'atmosphère, comment est-ce que les disciples l'expliquent? Je vais vous donner l'authentique en anglais, puis après je traduirai. We are supposed to rule there, c'est-à-dire dans le ciel. Nous sommes supposés, alors déjà, qu'il y a un verset qui dise « Nous sommes assis dans le ciel avec Christ », je suis d'accord. Mais quand je dis « Nous sommes supposés de régner là-bas dans le ciel », pour amener le ciel sur la terre. Vous voyez, dans l'expression, ça veut dire, bon, c'est du dominionnisme, hein, mais dans l'expression, ça veut dire que, voilà, nous avons un mandat qui est ça. Si nous ne le faisons pas, nous ne sommes pas des vrais chrétiens. C'est ça que ça veut dire. Or, quel est notre mandat en tant que disciples? Est-ce que Jésus, là aussi, a oublié de dire quelque chose? Avant de partir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné une mission. Ben, prenez acte. Acte 1, il a dit « Je vous envoie pour prêcher l'évangile à toutes les nations. » Alors peut-être qu'il a oublié de dire « Je vous envoie pour être assis dans le ciel de manière à ce que vous ameniez le ciel sur la terre. » Allô ? Ça semble... Non ? Je vous laisse avec ça, réfléchissez. Deuxième déclaration, il y en a d'autres. Hein. « When you're ruling there » Donc quand vous régnez là-haut, donc il faut aller dans le ciel et régner là-haut. Voilà, donc c'est un ordre. Quand vous régnez là-haut, ruling there, is enable us, nous rend capable, to bring the glory of God. Donc vous êtes capable d'amener la gloire de Dieu. Ok? Down from that realm into this one. De cet endroit sur la terre. Alors le bouquet, c'est celui-là. We must see people raised up to occupy those dimensions of rulership in the heavenly realms. Ça veut dire que nous devons voir des gens, donc des chrétiens, qui montent pour occuper cette dimension de règne dans le royaume céleste. When that happens... Donc ça veut dire que là, vous êtes supposé le faire, mais ça ne se fera que si vous y arrivez. When that happens, the principalities and powers and rulers get forced out. Et donc c'est une doctrine qui explique, alors Jésus a oublié de la donner, cette doctrine, qui explique que quand vous faites ça, les puissances, les dominations dans le deuxième ciel, c'est-à-dire que celles dont parle Éphésiens, hein, où seules ces puissances-là, c'est Dieu qui les met sous les pieds de Jésus, mais vous êtes capable de les sortir, de les faire sortir du domaine dans lequel vous êtes sur la terre. Donc en fait, vous pouvez libérer des villes, vous pouvez libérer des endroits, des lieux, etc. Ça, la doctrine de base. Et c'est pour ça que je vous ai demandé de sortir des gatherings dans lesquels est Marc Brisebois. Marc Brisebois, il aurait dit... des amis chers, que en fait, il n'y a pas sept montagnes, il y en a huit. Bon, ok, pourquoi pas, il y en a une de plus. Et la huitième, c'est la montagne spirituelle, c'est celle-là. C'est celle-là. Et c'est ça que j'ai remarqué quand on était dans le gatherings, ce qui nous emmenait, qui voulait nous emmener dans une atmosphère, donc créée par la louange en particulier, créer une atmosphère dans laquelle on peut exercer ces choses-là. Alors, je ne dis pas les horreurs d'Anna Mendes qui conduit ce genre de choses où elle vous fait coucher par terre et vous montez dans le ciel, vous cherchez une épée, vous savez, comme les Star Wars, là, une épée, et vous coupez tous les liens sur les pays, etc. Pour voilà, c'est ça la réalité aujourd'hui. Il faut que vous ouvriez les yeux sur la réalité que cette parabole amène un enseignement. Là, il n'a pas osé le donner, parce qu'il a vu que ça ne passait pas. Mais dans des sphères où ils sont tous entre eux, ben c'est ça qui est annoncé. Est-ce qu'on va, nous, accepter un cinquième évangile ou rester sur les quatre évangiles qui concordent pour nous amener à la sainte doctrine? C'est ça la question aujourd'hui. Il est question de vérité, de saine doctrine. Il y a doctrine saine, et d'autres qui sont corrompus, comme je vous l'ai dit, avec le gnosticisme, etc. Et c'est ça l'enjeu aujourd'hui. Je suis désolé. Il y a quelque chose qui pénètre dans le milieu chrétien, au travers de ça, qui est totalement diabolique. et qui est le fameux serpent levé. Vous savez, le serpent levé, c'est la Kundalini qui explique que en chacun de vous, vous avez une énergie naturelle, bon, qui diminue quand vous vieillissez, mais vous avez une autre énergie qui est cachée. Et toute l'astuce considère à la libérer, cette énergie. Alors, dans le yoga, il explique comment faire. Libérer l'énergie qui est en vous, qui est secrète, et qui, vous allez remarquer que ça marche. Effectivement, vous pouvez avoir cette expérience. Moi, j'ai eu une expérience une fois de ça, et je sais de quoi je parle. Effectivement, ça vous met dans un état d'extase. Mais ça vous amène complètement dans l'enfer au niveau de vos pensées. Et en 98, ici, quand on a le combat spirituel contre une principauté, ça c'est clair, une puissance, une autorité, et qu'on a voulu faire un peu ce genre de démarche, monter sur les montagnes, prendre l'autorité, etc., ben, ça a empiré. Ça n'a pas du tout été dans le bon sens. Ça a empiré. Et quant à la fin d'une année de combat spirituel, le Seigneur m'a permis, le 5 octobre 1998, de toute une nuit de combattre cet esprit qui est un esprit, un serpent levé, qui était là. Et ce serpent levé, en fait, j'ai combattu toute la nuit avec ça, mais c'était un rêve éveillé, un rêve, une réalité. Et j'empêchais ce serpent de se lever. Et en petit matin, Jésus est venu, et avec une grosse épée, il a tranché, et c'était fini. Et c'est là qu'on a été libéré. Et si on se laisse prendre à des enseignements, des doctrines, qui ne sont pas écrites, mais qui sont sous-entendues. Vous voyez ? Donc on donne une parabole, un enseignement. S'il avait dit une image, c'est différent. Je peux prendre l'image de l'atmosphère. Vous voyez ? Parce que l'image, ça illustre que l'atmosphère... C'est ce que j'ai dit d'ailleurs à la fin, quand j'ai dit C.S. Lewis a pris l'image de Narnia, où effectivement, à la fin, on a vu que l'atmosphère a changé, parce que Jésus a changé l'atmosphère de l'hiver à l'été. Okay. C'est une image, mais il n'a jamais prétendu être une parabole d'enseignement, etc. Il a illustré l'évangile. Donc si on dit l'image de l'hiver et l'image de l'été, moi, ça me va très bien. C'est la grâce. La grâce, elle accomplit ça. Okay. Mais ensuite, après, s'appuyer en enseignement de l'atmosphère pour dire c'est vous qui allez ramener l'atmosphère. C'est vous qui, dans cette place-là, allez... Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire vous élevez votre capacité à remplacer Dieu. Et vous écoutez bien, vous n'entendrez jamais le mot repentance. Jamais le mot repentance. C'est étonnant. Moi, je n'ai pas peur d'utiliser le mot repentance. Ça fait la base de l'évangile. Et s'il le faut, à chaque enseignement, j'utiliserai le mot repentance. Parce que sans la repentance, il n'y a pas de pardon. Ok, voilà. Et donc, vous voyez, la saine doctrine appuie sur des boutons qui sont sains. Et la doctrine corrompue ou qui se corrompt, alors à différents degrés, ça peut être 1%, 2%. Mais si vous êtes 1%, il vaut mieux revenir en arrière parce que quand vous êtes à 30%, vous savez qu'un maire président, on peut plus dialoguer avec lui. Tout est, hein? Isabelle a dit oui, parce qu'elle avait chez lui. Oui. Vous pouvez plus. Vous pouvez plus parce que vous êtes dans un système avec des bénéfices secondaires. Je ne vous dirai pas lesquels, moi je les connais. Vous avez des bénéfices secondaires. Donc quand vous avez bénéfices... Vous voyez, par exemple, John Wimber, qui est là d'ailleurs, qui est représenté. Nous, on a suivi un peu ses campagnes quand il venait en Europe. Il avait un don extraordinaire de la part de Dieu. Et quand les gens venaient pour l'imposition des mains, tous, ils étaient guéris. N'importe quelle maladie. Cancer, hémiplégie, fauteuil roulant, ils sortaient, etc. Voilà, c'est comme ça. On a vu. On était témoins. Mais quand il venait, à chaque fois, il posait la question parce qu'il étudiait, enfin, il lisait les évangiles sans arrêt. Le premier, quatrième évangile, il lisait. Et avant de prêcher, il lisait les évangiles. Et je ne sais pas combien de milliers de fois il les a lus. Pour s'imprégner comment Jésus faisait. Et Jésus, à chaque fois, il posait des questions. Est-ce que tu veux être guéri ? Alors, il faisait ça aux gens. Est-ce que tu veux être guéri ? Alors, il disait oui, ok. Elle a imposé les mains, elle était guérie. Puis il y a une dame, une sœur catholique, quoi, qui est venue, je ne sais pas ce qu'elle avait, très grave, elle dit que tu veux être guérie. Elle dit, j'aimerais que tu pries pour que je puisse supporter ma maladie. Ah, il n'a pas pu la guérir. Il n'a pas guéri. Et tout dépend comment vous êtes dans la réception de la grâce. Vous voyez, dans la réception, Dieu répond à vos attentes. Donc il faut avoir une attente qui est claire de la part du Seigneur. Mais si vous êtes dans une mentalité effectivement où les choses sont dévoyées, eh bien vous pouvez plus demander des choses correctes au Seigneur et vous vous piégez vous-même. C'est pour ça qu'il ne faut pas rentrer là-dedans. Voilà, vous pouvez explorer. Moi j'ai fait l'exploration. J'ai vu ce que c'était, j'ai vu où ça menait, mais si vous allez trop loin, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Jésus a dit, concernant les paraboles, l'interprétation des paraboles. Pour les 6 paraboles, vous avez 6 paraboles, je peux vous dire que si Jésus a donné 6, ça veut dire que vous pouvez comprendre le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, ce n'est pas d'amener le royaume, c'est de vivre le royaume. C'est d'être dans le royaume. Vous voyez ? Et par exemple, il a dit, mon basiléa, c'est un mot grec pour dire mon règne, n'est pas de ce monde. Le monde, il faut comprendre ce que c'est que le monde. C'est un des mots dans la Bible qui est le plus compliqué à comprendre. En grec, c'est écrit sarx, S-A-R-X. Et ça renvoie à beaucoup de choses. Ça renvoie au monde présent, à la terre. Ça renvoie à la société dans laquelle nous vivons, ça renvoie à la manière dont nous vivons les choses, etc. Vous voyez, c'est un mot qui regroupe énormément de choses, mais c'est toujours nous concernant l'humanité. Hein, on pourrait dire l'humanisme, l'humanité de notre monde présent. Jésus a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Il n'est pas là. Pourquoi ? Parce qu'il ne peut pas être là. Ce qui nous sauve, c'est ce qui vient de l'extérieur de ce monde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Ça vient de Dieu, ça vient de Jésus. Si moi, du monde, je veux me sauver par moi-même, par des boucles de raisonnement telles que cela, ben, je reste dans ce monde. Jésus a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Ce qui fait qu'il ne faut absolument pas utiliser des enseignements qui sont du monde. Parce que sinon, nous nous piégeons nous-mêmes et nous ne pouvons pas être sauvés, être libérés. Alors, voilà, donc je voulais juste évoquer ça pour vous dire que, sur le coup, je dis quelque chose qui est faux, mais comme il n'était pas explicite dans l'explication de la parabole, vous avez échappé à cette explication-là, vous pouvez la vérifier vous-même. Et je sais, pour avoir entendu des quantités de sermons dans la nouvelle réforme, que c'est ça qu'ils enseignent. Donc moi, je ne peux pas être d'accord avec ça, vous comprenez bien. Je ne peux pas vous enseigner, vous emmener dans l'erreur. Vous êtes d'accord ? Sinon, moi, je suis le premier responsable devant Dieu qui devrait passer devant son trône de jugement de ce que j'ai fait. Donc l'interprétation des paraboles doit toujours se faire, toujours. C'est un ensemble de règles. Alors, les groupes de responsables de maison peuvent le noter. Le royaume de Dieu est le règne rédempteur de Dieu. C'est le règne du rachat. Rédempteur, ça veut dire racheter. Dieu a voulu racheter l'humanité. C'est pour ça qu'il a donné Jésus, son fils. Parce qu'il est perdu. Parce que nous sommes perdus. Sans Jésus, sans le rachat de Dieu au travers de Jésus, nous sommes perdus. Donc il faut toujours interpréter les paraboles, et rester sur les paraboles qui sont enseignées ici, sur le règne rédempteur de Dieu. Qui, de manière dynamique, va établir son autorité parmi les hommes. C'est dynamique. Le deuxième réflexion sur le royaume, c'est l'accomplissement avec la venue de Jésus et la consommation avec le retour de Jésus. Et c'est dans ce contexte qui fournit le cadre des paraboles du royaume. Alors, deuxième chose qui m'a extrêmement choqué, c'est quand il a cité George John Lake. Wow, qu'est-ce qu'il fait là ? Okay. Alors c'est un charismatique, il est parti en Afrique du Sud, mais toute sa vie, il a eu des démêlés avec la justice. Toute sa vie, il mentait. Et son truc, je suis sûr que c'est du mensonge. Alors pourquoi utiliser un mensonge pour la gloire de Dieu? Pourquoi utiliser cette histoire de microscope où il voit la lèpre, etc. On a besoin, on a un tas de véritables miracles. Et il est utilisé pour ça. C'est un spécialiste du mensonge. Je veux dire, vous rendez compte? Je veux dire, il ne faudrait même pas. Il est dans des. Regardez sur Internet, vous avez les mêmes informations que moi. Si vous êtes honnête, vous regardez. Il est dans des. Comment dirais-je des, pas des cabales, mais des. Comment on appelle ça? Des controverses. Permanence. Citer quelqu'un comme ça. Vous voyez, il est cité partout, hein, dans tous ces milieux-là. Je dis, attends, on a tellement d'hommes, de femmes qui sont droits, qui sont clairs, que pourquoi jouer avec les fidèles qui ne savent pas? Je dis, c'est pas juste. On n'a pas besoin de ça pour glorifier le Seigneur. Hello? Voilà. Donc moi j'ai dit, oh, bon, je ne me suis pas trop intéressé à ce personnage-là parce que je l'ai vu dans la Nouvelle Réforme qui le citait tout le temps, mais voilà, j'ai dit, attends, j'ai jamais entendu parler de ce. Pourtant, je lis beaucoup et je cherche beaucoup de témoins authentiques. G.J. Legg, c'est vraiment le dernier personnage à citer concernant la foi, doctrine saine. Dernière chose, l'interprétation des paraboles se fait toujours par rapport à la mission de Jésus. La mission de Jésus. Jésus, il relie ses paraboles à sa mission. Pourquoi il est venu? Qu'est-ce qu'il a fait? Comment il va sauver l'humanité, etc. Et pas par rapport du combat spirituel. Okay. Éphésiens 6, 12, hein, c'est le fameux verset phare pour le combat spirituel. Ne le reliez pas aux paraboles de l'atmosphère, parce que sinon vous arrivez à ça. Alors, voilà. Mon rôle, c'est de vous avertir. Maintenant, c'est à vous de prendre les décisions et de suivre qui vous voulez. Mais la parole de Dieu nous a dit, dans les derniers temps, il y aurait de la séduction qui entraînerait même les croyants. Et on est dans ce temps-là. Il faut être très, très attentif à ce que nous écoutons. Et surtout, écouter la parole. Et Michel est la première à le dire, les chrétiens ne connaissent plus la parole. Est-ce que vous connaissez la parole? Est-ce que vous lisez la parole? Est-ce que vous la méditez, la parole? C'est ainsi. Mais où est-ce que vous écoutez les enseignements? Où est-ce que vous écoutez? Et vous ne savez peut-être pas discerner quels sont les bons et les mauvais. Et tout le monde écoute, là. Écoute. Alors, les derniers trucs à la mode, il a dit ça. Mais qu'est-ce que dit la parole? Allô? Soyons. Vous voyez, nos pères sont morts pour cette cause. Sola scriptura. Seule l'écriture. Et en fait, on rajoute. Et maintenant, on fait des Bibles qui intègre ces conceptions de paraboles de l'atmosphère. Donc, ça va jusqu'au témoin de Jéhovah, qui l'ont fait avant nous. Hein. Donc, on n'est pas mieux. Donc, attention. Nous vivons sur une poudrière doctrinale, et nous avons besoin de la grâce de Dieu pour tenir ferme. Parce que si nous tenons pas ferme, nous n'aurons pas les victoires que nous souhaitons. Nous voulons tous des victoires, mais c'est seul Jésus qui peut nous la donner. Et en son temps, on ne peut pas provoquer des choses que Jésus doit faire. Nous devons simplement être soumis. Ah, bien sûr, ça fait ringard. 21e siècle, ça fait ringard. Hein. Ah, il faut vivre comme au Moyen-Âge, comme avant, comme les réformés. Ben non, on est libérés, 21e siècle. Maintenant, on a découvert d'autres choses. On a des connaissances. Vous voyez? Oui. Non. L'évangile est toujours le même. L'évangile ne change pas. Et même si ça paraît ringard, eh bien, c'est une puissance de Dieu pour quiconque croit. Amen. Seigneur, merci parce que ta parole, elle ne change pas. Et nous voulons te demander ta grâce, Seigneur, de ne pas être entraîné dans ces doctrines séductrices, qui ont toujours existé d'ailleurs, mais qui aujourd'hui sont sur la place publique. Et qui, Seigneur, ne permettent pas à ceux qui n'ont pas la saine doctrine de les déceler. Alors nous te demandons ta grâce. Nous prions en même temps pour Marc Brisbois, afin que tu l'aides. Il n'était pas comme ça il y a quelques années. Mais tu vois, il a glissé. Et nous te prions pour lui, afin qu'il réalise que, Seigneur, ce n'est pas ta parole, mais c'est une interprétation de ta parole. Alors Seigneur, merci de l'éclairer. Merci de nous éclairer et de nous garder dans l'humilité. Ce n'est pas une question de dénoncer des personnes, mais dénoncer les doctrines que l'ennemi distille de manière séductrice. Seigneur, merci de nous garder